Puisque le monde va vite, beaucoup trop vite, puisque l'épopée humaine est si souvent inhumaine, voici une petite évasion sur les chemins de traverse des colères du monde qui nous alertent, parfois nous agacent, celles qui éreintent ou vont nous émouvoir. Le journal des colères du monde, c'est vous qui l'entendez, mais c'est lui qui vous écoute. Bonjour à tous. Rarement les positions exprimées sur la Libye auront été aussi claires. Ceci à l'occasion de la visite officielle de la ministre libyenne des Affaires étrangères, Najla Al-Mangouch, qui a rencontré son homologue russe, le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. On avait noté, d'ailleurs même, dans ses colères du monde, que celui-ci disait cette semaine qu'il fallait obtenir un départ rapide des forces étrangères. Signalons que la Russie a annoncé qu'elle s'apprête à ouvrir une ambassade à Tripoli, un consulat à Benghazi, ceci afin de renforcer les relations diplomatiques entre les deux pays et de signer des accords de coopération de telle façon à ce qu'il puisse être envisagé à l'avenir une coopération économique, sécuritaire, culturelle et autre entre les deux pays. Mais Lavrov, le russe, étant sur une ligne où les forces étrangères doivent partir et que ceci doit être fait de façon simultanée de part et d'autre, d'est en ouest. Et au même moment, quasiment, on a le ministre turc de la Défense qui est ô combien concerné, puisque les forces turques sont, elles, basées à l'ouest du pays. Et bien, ce ministre de la Défense turc, Hulusi Akar, dit que selon lui, les forces militaires turques en Libye ne sont pas des forces étrangères et que Ankara continuera à l'avenir à soutenir les Libyens, ceci conformément aux accords qui ont été basés sur l'idée de la Libye pour les Libyens. C'est-à-dire qu'il ne considère pas que la présence militaire turque répond à l'appellation force étrangère présente sur le théâtre libyen. Ceci n'est pas que de la sémantique parce que c'est vraiment là le point central de la définition des forces armées qui sont sur place. Est-ce que les Russes sont sur place? Est-ce que Wagner, oui ou non, représente les Russes, point d'interrogation? Et est-ce qu'aujourd'hui la présence militaire de l'armée nationale turque peut être considérée comme une force étrangère en Libye? Ce sont là des questions tout à fait essentielles. Et c'est vrai que là, les positions des uns et des autres ont clairement été exprimées. La Libye qui est toujours mobilisée sur le front de la lutte anti-Covid. Une sixième cargaison d'oxygène médical est arrivée. 180 000 litres qui étaient en provenance de l'Égypte, pays toujours très impliqué dans la reconstruction, dans le processus politique en cours en Égypte. Et il y avait eu ces dernières semaines ces échanges entre les directeurs des principaux hôpitaux de Tripoli et leur ministre de la Santé, Ali Zanati. Ils avaient parlé ensemble de cette problématique de l'approvisionnement en oxygène de telle façon à secourir les personnes qui sont en détresse respiratoire en Libye. Donc voilà, cette livraison, cette sixième livraison vise à apaiser la situation dans les hôpitaux libyens qui travaillent quotidiennement à lutter contre la pandémie de coronavirus. En Algérie, alors que le front des incendies s'est globalement calmé, la question du remboursement des dégâts se pose. Alors à la fois, il y a le processus qui a été engagé de concertation des victimes des incendies pour qu'il puisse être fait un bilan de ce qui a été détruit et de ce qui devra être remboursé. Et puis, il y a la question tout à fait significative et dramatique des agriculteurs qui, pour certains, ont perdu quasiment toutes leurs exploitations. Et aujourd'hui, la Caisse nationale de la mutualité agricole se demande s'il ne serait pas temps d'instaurer une assurance obligatoire, oui, obligatoire pour les agriculteurs, qui prendrait en considération le risque de catastrophe naturelle et même aussi le risque d'incendie qui peut être d'origine criminelle mais qui a la capacité de tout ravager sur son passage. En tout cas, la problématique des assurances est posée de façon tout à fait aiguë parce qu'il faut tenir au jour le jour. Pour les agriculteurs, il y a effectivement le défi de la vie quotidienne, mais il y a aussi les saisons. Nous sommes en plein cœur de l'été, c'est la période des récoltes. Le septembre aussi est un mois très très important parce que c'est le mois des labours. Après, on va semer. Donc voilà, il y a tout un cycle qui fait que ce doit être aujourd'hui pris en considération. Nombre d'agriculteurs ont énormément souffert des incendies et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils se trouvent dans l'expectative en se demandant mais comment va-t-on faire pour s'en sortir ? Impatience, impatience, impatience en Tunisie, mais pourtant une lueur, c'est le président de la République, Ayssayed, qui l'annonce la composition du prochain gouvernement devrait être annoncée dans les prochains jours. Aujourd'hui, beaucoup de spéculations à Tunis. Est-ce que ce sera plutôt une formation gouvernementale de type technocrate? Est-ce qu'il y aura des colorations politiques? Comment seront retranscrits les équilibres au Parlement sur cette formation gouvernementale? On devrait en savoir plus d'ici quelques jours. Ce débat en Mauritanie concernant l'approvisionnement en eau de Nouakchott, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de délestages cet été. Le responsable de la société mauritanienne d'électricité, la Semelec, qui est aussi en charge de la distribution de l'eau, s'en est exprimé lors d'une interview. C'est intéressant parce qu'il fait état de la ligne qui relie aujourd'hui Tinguette-Nouakchott, qui est une ligne usagée, donc ce qui explique pour partie les délestages en eau, donc les coupures d'eau. La société a construit ce que l'on appelle la ligne 21. C'est une ligne d'approvisionnement qui sera opérationnelle à la mi-septembre et qui devrait a priori permettre une distribution tout à fait normale et continue en eau de la ville de Nouakchott. Mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, les autorités mauritaniennes reconnaissent qu'il y a eu des travaux d'entretien qui n'ont pas été faits, qui ont fortement pénalisé le réseau de distribution d'eau et d'électricité. Donc tout ça est en train d'être remis d'aplomb. Il faut patienter jusqu'à la mi-septembre pour que cette ligne 21 devenue opérationnelle, les habitants de Nouakchott puissent se dire que cette problématique de l'eau est ancienne et qu'ils y auront tourné le dos. En tout cas, c'est la date qui a été annoncée par le directeur général de la Semelec. Et puis en Mauritanie, comme dans tous les pays de la région, on prépare la rentrée des classes. Quelques grincements de dents du ministre de l'Éducation nationale mauritanien après ces annonces du Conseil des ministres qui présentaient les grandes lignes. Mais quand le ministre, lui, a fait ses comptes, il s'est rendu compte qu'il manquait environ 1000 salles de classe et 80 000 bancs sur lesquels les écoliers peuvent s'asseoir. C'est vrai que la Mauritanie a fait énormément d'efforts pour rajeunir et construire nombre d'écoles, d'établissements. Le ministre de l'Éducation nationale rappelle que parmi les 2000 établissements qui sont en cours de construction, 1000 ont déjà été livrés. Donc c'est en soi déjà quelque chose qui est formidable, mais ce n'est pas assez. Il manque encore des salles de classe pour pouvoir accueillir les écoliers, les étudiants et aussi qu'ils puissent s'asseoir quelque part. Il manque toujours ces tables-bancs. Donc tout porte à croire que cette problématique de la disponibilité des salles devrait être prochainement résolue en Mauritanie.
Attaque, combat, guerre.
Retour en Afghanistan. Décidément, cette semaine aura été bien afghane, mais c'est vrai que c'est là où l'actualité nous porte cette semaine. Ne croyons pas que le fait que Kaboul ait été prise par les talibans quasiment sans combat signifie pour autant que la guerre est terminée. D'une part, il y a le groupe État islamique qui est toujours opérant. Il est certain qu'aujourd'hui, le pouvoir étant tombé aux mains des talibs, le groupe État islamique va essayer de revivifier ses forces et d'attaquer les points qui sont actuellement tenus par les talibs, qui ne tiennent pas la totalité du territoire, et notamment la seule région d'Afghanistan qui aujourd'hui continue à résister et qui ne veut pas du régime des talibans, c'est celle qui est dirigée par Ahmad Massoud. C'est un jeune, il a 32 ans, donc il dirige les vallées du Panjshir. C'est une zone où il y a eu beaucoup de regroupements ces derniers temps, c'est-à-dire que les forces militaires régulières afghanes, des commandos, les forces spéciales, des pilotes qui ont fui la poussée des talibans et ils ont rejoint la vallée du Panjshir qui contient déjà au jour d'aujourd'hui une vingtaine de bases militaires. Donc ce sont plusieurs centaines d'hommes, de voitures blindées. Il y a aussi des hélicoptères qui ont réussi à quitter Kaboul et ses environs pour rejoindre la vallée du Panjshir. Et le fils Massoud dit très clairement qu'il s'attend à ce qu'il y ait un retour de la guerre avec les talibans, puisqu'en fait le différentiel, l'antagonisme entre la famille Massoud et les talibs, il est ancien. On se souvient que son père, Ahmad Shah Massoud, qui a dirigé l'alliance des tribus et des milices du Nord, donc qui était déjà dans la vallée du Panjshir dans les années 90. Et c'est un homme qui a été assassiné par Oussama Ben Laden 2 jours avant l'attaque du 11 septembre. Et Massoud a toujours été résolument hostile à l'islamisme radical, celui du groupe Al-Qaïda, et puis également à l'islam tel que porté par les talibans. Donc même si Ahmad Shah Massoud, le père, est mort, le fils est là pour reprendre le combat. Aujourd'hui, il voit ses positions militaires renforcées par ceux qui ont fui le régime taliban. Alors pour l'instant, il n'y a pas de tension, hein. Les talibans sont surtout en train de s'organiser, d'organiser le pouvoir, de voir comment ils vont régir la vie et comment ils vont organiser l'existence politique du pays. Mais il est à craindre qu'un jour, il y ait une recrudescence de tensions, voire plus de combats, entre d'une part la vallée du Panjshir et puis d'autre part les talibans. C'est une guerre qui date depuis maintenant 30 ans et il n'y a pas de raison, quand on entend les uns et les autres, que cela ne s'arrête.
Voilà, c'était les colères du monde d'un jour comme les autres, mais qui n'était pas tout à fait comme les autres. On se retrouve bientôt pour d'autres colères du monde.